Aujourd'hui, nous allons commencer un texte qui est en trois parties et qu'a écrit le Rav Tao Shlita concernant les difficultés de l'adaptation sur la terre d'Israël, d'une manière générale. Comment est-ce que la terre d'Israël, que représente cette terre d'Israël par rapport à ses habitants? Quel est le lien entre les habitants et la terre? Est-ce que c'est un lien de quelqu'un qui vient pour organiser son peuple, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intime, comme dit le Rav Kook dans Oroth, concernant Eretz Israël, que ce n'est pas quelque chose d'extérieur, que cette terre n'est pas un élément, un endroit, encore un endroit dans le monde dans lequel le peuple d'Israël va venir se réunir, même pour des raisons technique de facilité de vie, mais bien au contraire, la terre représente en fait un lien avec la nation. On ne peut pas dissocier les deux, c'est quelque chose qui est imbriqué, que le cerveau humain ne peut pas comprendre, et la seule manière d'appréhender le sujet, c'est en étudiant la partie secrète de la Torah. C'est ce que dit le Rav Kook. En s'éloignant de la partie secrète de la Torah, donc de la Torah des secrets, la Torah d'Eretz Israël, eh bien, la valeur de cette terre devient floue, elle n'est pas comprise, et on ne peut pas du tout s'adresser à la terre d'Israël d'une manière convenable. À partir de cela, la faute des explorateurs étant d'avoir vu la terre d'Israël d'une manière superficielle. Et aujourd'hui, si on retombe dans cette erreur, on peut retomber dans la vision d'Eretz Israël d'une manière superficielle, et on devient en quelque sorte, Chas v'Shalom, aussi des méraglim, plus ou moins proches de ces fameux explorateurs qui étaient dans l'histoire de la Torah. Méraglim, espion, mais le texte, si on veut un petit peu définir les choses beaucoup plus profond, c'est que n'arrive pas à descendre, à faire descendre en fait le lien entre le divin et l'humain. Il y a un problème de prise de conscience que la terre d'Israël n'est pas un ennemi de Dieu. Car pourquoi cette peur? D'une manière générale, dans le désert, on voit qu'il y a une séparation entre Dieu et la terre. Même lorsque Dieu fait tomber la manne, cette manne ne tombe pas sur la terre. Il faut qu'il y ait un récipient qui précède pour que la manne ne touche pas la terre. Et les sages nous expliquent parce que la sainteté de cette manne qui descend du ciel ne peut pas toucher la terre qui est impropre à cette sainteté. Moralité, on peut développer un système qui nous dit que la terre est anti-divine. La preuve. Ça, c'est vrai dans les exils. La difficulté, c'est de faire un switch et de comprendre que lorsqu'on arrive en terre d'Israël, eh bien, le divin peut et s'habille dans le monde de la nature. Ça, c'est la difficulté que nous avons à passer de stade exilé à un stade de délivré. Et cette délivrance, je viens de vous donner une clé, c'est le mariage entre l'esprit et la matière, entre Akadosh Baruch Hu, entre l'infini et le monde de la matière, à tel point que les fruits d'Eretz Israël vont avoir eux aussi une Kedusha. Ça veut dire que nous n'avons pas peur ici de trouver, de retrouver la sainteté qui se trouve dans la nature. Akdusha, Sheba Teva. Et celui qui n'arrive pas à comprendre ce lien est en réalité dans un déphasage par rapport à la véritable notion du judaïsme. Lorsque le roi Salomon a construit le premier temple, la reine de Saba est venue voir cette merveille, et le texte là-bas dit, dans Melachim Aleph, chapitre 9 à peu près là-bas, qu'elle a vu, lorsqu'elle a vu le temple de Jérusalem, elle n'avait plus de souffle, c'est-à-dire elle était au bord de l'évanouissement. Et les sages posent la question pourquoi? Eh bien le texte le dit. Le texte dit qu'elle a vu le roi Salomon, ses serviteurs, mais c'est pas ça qui a causé son exaltation. Quand est-ce que la reine de Saba était émerveillée? Lorsqu'elle a vu quelque chose de bien précis. Qu'est-ce qu'elle a vu? elle a vu une montée, un genre de pont, des escaliers, qui rejoignaient sa maison au temple de Jérusalem. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech s'est fabriqué un passage entre sa maison et le temple de Jérusalem. Donc il venait au temple de Jérusalem par ce pont qu'il s'est créé. Et ça, ça l'a émerveillé à la reine de Saba. Alors dans le sens premier de l'explication de ce texte, on peut dire que elle était émerveillée que le roi Salomon soit tellement lié au temple de Jérusalem que à chaque fois qu'il voulait un petit peu accéder à Dieu, ben il avait un chemin direct, entre guillemets. Les sages de la Torah d'Eretz Israël, qui est une Torah de délivrance, nous disent que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ils voient là le grand secret de cette Torah d'Eretz Israël. C'est que dans la terre d'Israël, le Saint des Saints est relié à ma vie privée. Et c'est ça le lien entre la maison de Shlomo HaMelech, l'homme, et le temple de Jérusalem, le Saint des Saints. Est-ce possible de comprendre qu'un homme privé, avec sa chambre à coucher, soit relié au temple de Jérusalem? C'est impensable. Le temple de Jérusalem, c'est Dieu, c'est l'infini. Ma maison, c'est ma maison, je suis dans un monde avec toutes mes faiblesses d'homme. Eh bien non. Ça, c'est la force du roi Salomon, c'est qu'il a montré, et effectivement ça a plu, cette idée a germé dans la tête de cette reine de Malkat Shva, la reine de Saba, elle a compris qu'il se passait quelque chose de nouveau dans ce peuple juif, c'est que le Saint des Saints, le plus haut niveau, était relié à la vie la plus intime, la plus basse entre guillemets, la plus charnelle de l'homme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de séparation. Il y avait une différenciation, mais il y avait quand même un lien, un trait d'union entre le Kodesh et la nature. C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans ce texte. Et ce texte, bien entendu, ne va pas rester figé sur un petit détail. Il va ouvrir tout de suite et vous allez voir toutes les références qui arrivent pour montrer quel est notre lien en tant que peuple avec cette terre. Nous ne sommes pas des éléments privés. Avraham Avinu, qui est la matrice de ce peuple, n'est pas un homme privé. Il a été choisi, déjà en lui, il y a une notion de peuple. Paradoxe, un homme privé, individuel, qui est déjà la matrice d'un peuple. Difficile à comprendre. Et on va voir, Be'ezrat Hashem, que notre lien est un lien d'un peuple à sa terre, du peuple qui appartient à cette terre, et la terre qui appartient à ce peuple. On va commencer par une question qui peut nous toucher à tous. Kshayei ha'ikaltut be'eretz Israël. Les difficultés de l'intégration en Israël. Donc le Rav vient nous donner des choses très concrètes. Il n'y a pas, ça plane pas. C'est très concret, ça, c'est dans notre vie, c'est dans notre histoire, dans notre actualité. Lifnei kematayim shana, il y a de cela 200 ans, hechela hityashvut hayehudit be'eretz Israël. Il y a eu le début de l'implantation des Juifs sur la terre d'Israël. Be'aliyat talmidei ha-Baal Shem Tov, ça a commencé avec les élèves du Baal Shem Tov, zkutot hagen aleinu amen. Le Baal Shem Tov a envoyé ses élèves en Eretz Israël. Uberosham, et à leur tête, Rabbi Menachem Mendel mi-Vitebsk. Okay? C'est lui qui était le Rav qui dirigeait tous ses élèves du Baal Shem Tov. Yechidim, c'était des éléments éparpillés, individuels, des talmidim, de grands talmidei chachamim, mais encore des individus. Tzadikim v'chassidim, c'était des hommes qui étaient dans une tzidkout, dans une chassidout extraordinaire. Alula haaretz mitoch kavanat atziliut v'nisgavot, sont montés en Eretz Israël parce qu'ils avaient des envies, des pensées très 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 élevées, très supérieur, les Hashlim ou les Shachlel et Kedushatam, ils voulaient en fait, ces élèves-là, parfaire, compléter leur sainteté, en tant qu'hommes, à l'idée Kedushata shel Eretz Israël, en se disant que la terre d'Israël était une terre du Saint béni soit-il, lorsque je viens en Eretz Israël, je vais me compléter. La terre va m'aider à me nettoyer de tout ce qui me dérange pour accéder au divin. Donc ils avaient compris que la terre d'Israël avait quelque chose en elle, intrinsèque,
qui pouvait changer, transformer la nature profonde de l'homme, l'améliorer. Pourquoi ? Makom Ashrina. Parce que c'est l'endroit, le lieu où il y a la résidence divine. Comment est-ce possible ? Eh bien, Dieu a créé le monde de cette manière-là, de cette façon-là, que cette déconnexion entre lui, créateur, et le monde créé, vous savez que la création c'est sortir de l'unité, donc divine, se découper. Le mot bara en hébreu, je crois qu'on l'a déjà étudié ensemble, le mot créer, c'est sortir de, bara. Donc, lorsque Dieu crée le monde, il sort, il fait sortir le monde, comme une maman qui accouche un enfant. Donc, ce monde est éjecté à l'extérieur du divin, entre guillemets. Mais ce monde ne peut pas exister, comme le bébé ne peut pas exister, parce qu'il est découpé maintenant de son lien de vie. Il était lié par le cordon ombilical jusqu'à maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'il va vivre? Eh bien, la maman revient vers le bébé et lui donne à téter. Eh bien, Dieu, quand il crée le monde, c'est exactement la même chose. Le monde ne peut pas exister parce qu'il y a une déconnexion. Et donc, Dieu revient dans le monde pour lui donner à téter. Cette tétée divine, entre guillemets, c'est toutes les valeurs de la vie que Dieu arrive à donner dans ce monde. En l'occurrence, la Torah. Mais, pour faire ce lien avec le monde, Dieu a gardé un point de contact. Ça veut dire que Dieu ne revient pas dans le monde qu'il vient de créer, de partout, uniformément. Dieu revient dans ce monde, et là il y a une règle qu'il faut étudier dans le Maharal, toujours, oui, par l'endroit. Mais pourquoi le Beth Amikdash est là-bas? Parce que l'endroit lui-même a quelque chose de spécial. C'est pas que l'endroit est devenu saint parce qu'on a construit un jour le temple dessus. Comprenez? Cet endroit était saint déjà depuis la création du monde. Et c'est pour ça que le temple est là-bas. Les gens pensent que un jour on a construit le temple et depuis l'endroit est devenu saint. Non. C'est l'endroit qui est déjà en lui quelque chose d'extraordinaire, comme Yaakov, on va le voir bientôt dans Bereshit, quand il sort d'Eretz Israël et qu'il va dormir et qu'il va rêver de ce fameux rêve avec l'échelle, eh bien c'est là-bas. C'est dans cet endroit, au Beth Amikdash, car là-bas, les anges montent et descendent, c'est-à-dire le lien entre l'humain et le divin, entre le monde et le créateur du monde, c'est un lien continu. Donc bien avant le temple, il n'y avait pas encore de temple. Yaakov a dormi là-bas sur une montagne. Et cette montagne était déjà la montagne du lien, c'est-à-dire le point de contact entre les mondes. Maintenant, ce degré-là, du Beth Amikdash, c'est l'endroit de la Shrina, c'est-à-dire que la présence divine, Akadosh Baruch Hu a choisi un endroit précis sur la planète, dans le monde qu'il a créé, pour revenir au monde. Il ne revient pas donc de tous les côtés uniformément, il revient par un endroit qu'il a choisi, précis. Et quel est cet endroit? Je commençais à dire que le Maharal nous explique qu'il faut que cet endroit soit central. Central dans le sens qui réunisse en lui, qui contienne en lui tout. De la même manière que dans notre monde de forme, le cercle, c'est la forme la plus parfaite que le monde physique puisse connaître, eh bien à l'intérieur de ce cercle il y a un centre. Le centre est à une distance égale de tous les côtés du cercle. Eh bien c'est par le centre qu'on peut en réalité dominer le tout. De la même manière, nous disent les sages, le centre du monde que Dieu a créé, c'est la terre d'Israël au niveau physique. Au niveau humain, c'est le peuple d'Israël. Nous sommes le centre des nations. Et au niveau du temps, c'est le Shabbat. Le Shabbat est le centre de la semaine, le centre des jours. Ce n'est pas le week-end, ce n'est pas la fin de semaine. Okay? Qu'est-ce que tu fais fin de semaine? Ça ne veut rien dire, c'est mardi fin de semaine ou mercredi. Le Shabbat, c'est le milieu de la semaine. Milieu dans le sens, celui qui est à égale distance de tous les jours de la semaine, car c'est lui l'âme de tous les jours de la semaine. Donc, vous avez ici trois points de contact que Dieu utilise pour revenir dans le monde qu'il a créé. Un point géographique, la terre d'Israël. Un point au niveau du peuple, des peuples, des hommes, le peuple d'Israël. Et un point au niveau du temps, dans lequel Dieu revient dans ce monde, le Shabbat. Donc il y a comme un intermédiaire, une interface entre le divin et ce monde qui est formé de trois degrés, d'un temps spécial, d'un espace spécial et d'un être humain spécial. Donc la terre d'Israël, le peuple d'Israël et le Shabbat. C'est avec ces trois éléments que Dieu revient dans le monde créé. Si j'observe ces trois degrés, si je me comporte comme un homme d'Israël, donc mon canal de passage du divin marche. Si j'observe le Shabbat, je fais en sorte que le canal du divin au niveau du temps marche. Et si j'observe cette mitzvah au niveau de l'espace et je viens habiter sur la terre d'Israël, je réalise encore plus le retour de Dieu sur terre. Donc en observant ces trois degrés, nous faisons revenir Dieu dans le monde, nous réalisons le retour de Dieu, la teshuva de Dieu, dans le monde qu'il a créé. Ce retour de Dieu dans ce monde n'est pas un retour des paroles en l'air, c'est un bonheur assuré, c'est une réussite assurée, c'est une joie intense assurée, c'est tout ce qu'on appelle le bonheur, l'intensité de vie et la réussite dans tout ce qu'on fait. Plus Dieu reviendra sur terre, plus les choses seront de plus en plus faciles parce qu'elles seront liées à leur source. Plus on s'éloigne de ce divin en détournant le temps que Dieu a créé comme lien, c'est-à-dire en n'observant pas le Shabbat, en n'habitant pas sur la terre d'Israël en voulant créer un nouveau canal ailleurs, okay, en forçant Dieu de descendre sur terre par un autre moyen, par un autre endroit, ou alors en ne se comportant pas comme un juif, okay, et de sa source, lié à son identité. Ça aussi, encore un malaise, encore une déviance, encore une déviation, donc une stia, un satan, une force qui dévie de la réalité. Donc les élèves du Baal Shem Tov, je reviens, ont compris qu'il y avait donc ici un lien spécial, et donc ils sont venus parce que c'est l'endroit de la Shrina. Shrina, traduction, présence divine, okay, en hébreu simple, shachen, voisinage. Okay, donc je peux être shachen de Dieu. Dieu devient mon voisin, c'est-à-dire qu'il est très proche de moi, j'ai un contact, j'ai un lien de voisinage avec Dieu, et donc il est shochen betochi, il n'y a pas de mot en français, il vient se poser en fait. Okay, Dieu se repose sur la terre. J'aide Dieu, entre guillemets, à se délivrer. Car Dieu est en exil dans ce monde. Dieu est en exil dans ce monde. Dieu est l'infini. Et donc ce monde est un petit peu un lieu d'exil pour lui. Et il y a certains endroits, certains degrés qui permettent à Dieu de se reposer, entre guillemets. Et nous sommes les associés de ce divin pour se reposer sur terre. On appelle en hébreu Nachat. Nachat, c'est se poser comme un avion qui se pose, qui atterrit. Donc on va aider Dieu à atterrir sur terre, donc à rejoindre la terre, et au moment où Dieu rejoindra la terre, remplira la terre, eh bien la terre se remplira de la connaissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Géoula. Donc Makom HaShrina. Les Sifro Shel Rabbi Menachem Mendel, Peri HaAretz, et donc le livre de Rabbi Menachem Mendel, ce fameux Rav qui est venu avec les élèves, Peri HaAretz, il s'appelle ce livre, le fruit de la terre. Sorfu Mirtavim Shel Ben Doro. Il y a eu des lettres qui ont été retrouvées de quelqu'un qui vivait dans cette génération. A Kohen Hagadol Me'echav, un Kohen, un grand Rav, Kohen, qui s'appelait Rabbi Avraham Mikalisk, Aoskim Be'adrachot Le Talmidav ou Le Chassidav Shebechutz La'aretz. Et donc ces lettres aidaient les Talmidim qui sont restés encore en dehors d'Eretz Israël pendant cette période. Là, tous ces Chassidim qui étaient encore là-bas, par lettres, on est en train de les conseiller, de les diriger, de les guider. Be'echad mimichtavim elu, donc dans l'une de ces lettres retrouvées, Motze Rabbi Avraham tzorech leazir et otam ha-chafetzim la'alot be'ikvotav la'aretz. Il avertit les élèves qui sont encore là-bas et qui veulent monter, car lui est déjà là, avec quelques élèves, et certains élèves veulent aussi commencer à arriver. Et il leur écrit une lettre d'avertissement. Étonnant. Et il leur dit, vous savez, la terre d'Israël a un caractère spécial. Il est difficile de s'intégrer sur cette terre. Harabim, c'est beaucoup de difficultés. Sheyesh ba'aliyah zo, dans cette aliyah que vous voulez maintenant réaliser. Mitzad ma'alat ha'aretz ve'yichuda. C'est pas parce que cette terre est négative, c'est parce qu'il faut, pour arriver à cette terre, monter de niveau. Donc, tant que tu n'es pas au niveau de la terre, eh bien, tu as des difficultés. La terre accepte en fait ce qui lui ressemble. Il faut ressembler à cette terre. Donc, si vous êtes encore là-bas, faites attention. Essayez de vous préparer à cette alia. Cette alia ne sera pas seulement un déplacement horizontal sur la terre, mais vous devez aussi prendre conscience que votre montée sera dans tous les sens du terme. Vous allez devoir monter dans tous les sens du terme. Nosé Amichtav, ou Omna Makshaim Aovrim al Adam Aprati Aole l'Eretz Israël. Donc la lettre là-bas parle de toutes les difficultés individuelles de tous ceux qui montent. Et elle s'adresse aussi, cette lettre, spécifiquement à ceux qui ont des directions de pensée très très élevées, des kavanot, ce sont des kabbalistes, ce sont des grands chassidim, qui veulent malgré tout arriver en terre d'Israël avec de bonnes résolutions. Et là, nous allons nous arrêter sur le sens central de ce que le Rav voulait faire passer comme message à ses élèves. Et nous allons apprendre en réalité qu'il y a une existence en Eretz Israël qui n'est pas une terre passive, j'allais dire, inerte. C'est une terre qui vit, qui vibre, qui respire et qui a un caractère. C'est-à-dire que cette terre agit continuellement et elle demande aussi. Elle a une demande, elle exige de celui qui se trouve sur elle. Ça veut dire que quand vous êtes en Eretz Israël, dit le Rav à ses élèves, vous allez ressentir, parce que vous êtes des hommes très sensibles, vous allez ressentir que la terre ne vous laisse pas tranquille. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre exigeante. C'est une femme exigeante. Et elle a un caractère. Et elle a besoin, okay, de faire passer son message à celui qui lui marche dessus. C'est-à-dire nous. Ce qui était valable pour les élèves du Baal Shem Tov est toujours valable pour nous. Ça veut dire que de cette lettre d'un grand kabbaliste, d'un grand sage de la Torah, nous comprenons ce que la terre d'Israël exige de son habitant. C'est pas comme quand tu voyages en Suisse et que tu te balades dans une forêt ou dans une montagne. La terre d'Israël va demander, va t'exiger, donc va pousser à l'intérieur de toi un genre de demande, de requête qui ne te laissera pas du repos. Tu seras toujours à petit feu ici. Tu seras toujours dans une tension intérieure parce que quelque chose, et là on comprend que c'est la terre, quelqu'un, j'allais dire, une identité de la terre, te demande et exige de toi un certain mode de vie, une certaine éthique de vie, un certain niveau de vie pour pouvoir y rester. Et donc là, nous avons ici une leçon générale de ce que la terre d'Israël représente. Et donc, nous avons ici une leçon qui doit nous servir, al-kshaye-haï-kaltout. Pourquoi nous avons des difficultés à être intégrés? Ken klita. Chez la am kulo, de ce peuple d'Israël tout entier, vers Israël, lorsqu'il arrive sur sa terre. Pourquoi c'est pas facile? Si tu me dis que c'est sa nature, si tu me dis que cette terre lui appartient, ça devrait être facile. Le peuple qui correspond à la terre vient rejoindre sa terre, et ils se marient, et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça a l'air facile. Qui s'assemble, se ressemble. Alors pourquoi ces difficultés? Eh bien, on vient de le dire, et on va le répéter, on va le voir, le Rav va développer ce sujet. la terre est exigeante et elle exige de nous certaines choses. Kasher yivevot alfei amecha bet Israël shavim acharei shnot galut arukot. Donc quand vous voyez autour de vous des milliers, des centaines de milliers, des millions d'enfants d'Israël qui reviennent du monde entier après 2000 ans d'exil, vekashot leityashev be'artzam, avec un exil très difficile, celui qu'on vient de terminer, et qu'ils reviennent s'installer sur leur terre. Pourquoi ce retour se fait avec autant de difficultés? Ba'et azot, kasher or ha-geoula zorach beseter benishmat ador. Le Rav maintenant passe le zoom à notre génération. Maintenant, il dit le Rav, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où la Géoula, la lumière de la Géoula est en train d'éclairer déjà, mais elle éclaire cette lumière d'une manière encore cachée. Beseter. Pourquoi Beseter? Pourquoi cacher? Où est-ce qu'elle se cache, la lumière de la Géoula aujourd'hui? Dans l'âme, Benishmat Hador de la génération. Dans l'âme de la génération. Là, c'est un chiour, une leçon extraordinaire du Rav Kook et après lui tous ses élèves. C'est que au commencement de la Géoula ne se fera pas voir à l'extérieur, elle se fabriquera à l'intérieur même de l'âme du peuple d'Israël dans un endroit secret, c'est-à-dire elle va se tramer dans un degré qui est souterrain encore, on ne verra pas. Les gens un petit peu plus sensibles ressentiront ce qui se passe. Mais tout est en train de se fabriquer en dessous. Le jour où ça va apparaître comme quelque chose d'assez complet déjà. Les gens qui n'ont rien vu peuvent passer des années à ne rien voir en se disant « Écoute, moi je ne vois aucune Géoula. » Pourquoi? La Géoula se fabrique dans un souterrain. Où est ce souterrain? L'âme de la nation d'Israël. C'est-à-dire un degré très 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 profond où nous n'avons pas trop d'accès, mais nous venons tous de là-bas. À condition de savoir relier ton être à ce degré-là, si tu sais faire cela, tu verras comment la lumière se dévoile. Maintenant, le Rav va nous expliquer ce qui se passe là-bas, comment la Géoula est en train de se tramer, se fabriquer dans cette âme d'Israël. Vemeni arrivevot Yehudim, première action de cette fabrication de Géoula, nous devons avoir des résultats réels dans ce monde. Arrête de me parler de quelque chose de virtuel, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Je veux des choses réelles, vraies. Nous dit le Rav, première des choses vraies, réelles, c'est qu'il y a une impulsion chez tous les juifs du monde, on ne sait pas qu'est-ce qui les a piqués, de se réveiller un beau jour et de dire le temps est venu de rentrer à la maison. Et ça, c'est quelque chose de réel, qui est contre la logique. Vous étiez très bien là où vous étiez, vous aviez un avenir, vous aviez apparemment tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie, et il vous est tombé je ne sais quoi, et vous vous êtes dit, stop, c'est fini, je monte. Dit le Rav, c'est pas toi qui t'es dit, c'est pas toi qui t'es réveillé un matin, c'est l'action de la Géoula qui est en train de se tramer dans l'âme du peuple d'Israël, qui a envoyé des rayons de soleil, de cette lumière, et toi tu les as entendus. Bechol katzve tevel, et ces rayons là d'information, d'exigence, voici la première exigence, reviens. Et vous avez entendu un son intérieur qui vous disait reviens, 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 jusqu'au moment où tu n'as plus pu tenir le coup et tu te dis d'accord, je reviens. Bien, donc tu as fait tes valises et tu es venu. Bechol katzve tevel ashuv le'achez be'artzam. Donc ce son intérieur, ce bruit intérieur, cette demande intérieure, comment elle s'appelle en hébreu? Parashat de la semaine. Lech Lecha. Ken, c'est exactement ce qu'Abraham a entendu. Pourquoi c'est important de lier ça à Abraham? Tout simplement pour comprendre que lorsque nous parlons d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, nous parlons de qui? De nous. Et il y a une règle, Ma'ase Avot, Siman, Labanim. Ça veut dire que si la Torah nous raconte des histoires, ce n'est pas nous raconter des histoires de trois personnages qui étaient très importants, très sympathiques, un peu vieux, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et nous faire un récit de la Torah. Non. L'histoire d'Abraham, c'est mon histoire. Ça veut dire que tout ce qui va se passer en filigrane, en petit, chez Abraham, va se passer dans le peuple d'Israël tout entier. Abraham a commencé son histoire par une contradiction avec Nimrod. Okay? Qu'est-ce qu'on a fait dans le camp de Nimrod pour punir Abraham? On l'a rentré dans une fournaise, okay? Le premier camp de concentration. Donc Abraham était dans un camp de concentration, le premier. Et il est sorti vivant, il s'en est tiré. Ça veut dire que même après les camps, le peuple a continué à survivre. Nous avons connu ça dans notre histoire. Ça veut dire qu'il y a ici, ce qui s'est passé chez Abraham va se passer dans l'histoire du peuple d'Israël. Sarah, sa femme, a été kidnappée par le Pharaon. Ça veut dire que nous allons être un petit peu pris en exil parce qu'il y aura des difficultés. Nous serons obligés d'être dans des exils différents. Ici, c'est l'Égypte. Jusqu'au moment où on va sortir de cette Égypte. Eh bien, ce sont tous les exils d'Israël. Maaseh Avot, Siman Labanim. Ce qui s'est passé chez les pères va se passer chez nous. La seule difficulté, elle est énorme, c'est qu'au lieu d'avoir un seul père comme tout le monde, nous avons trois. Bien. Alors on va faire un travail avec trois papas. Okay? Généralement, on a un seul père. Okay? Pour être un homme normal, nous avons trois pères et quatre mères. Et encore avec les servantes, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette complexité? Imaginez-vous un enfant qui naît de trois pères et quatre mères. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est le peuple d'Israël. C'est un paradoxe, c'est quelque chose d'anormal, qui ne correspond pas à ce monde, et donc qui gêne. Ça fait rire. C'est pour ça que le premier juif, entre guillemets, s'appelle Yitzhak, celui qui rit. Et tout le monde le regarde et rigole. On va se moquer de nous dans l'histoire. Et nous allons répondre, la réponse bien connue, rira bien, qui rira le dernier? Et c'est pour ça que c'est Yitzhak, c'est au futur. Il rira. Lui, il va rigoler à la fin. Ok? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. D'accord? Elle aussi, elle fait partie du clan. À moins que tu aies envie de... Elle a eu quand même 6 enfants. Hein? C'est pas mal. Tov. Et une fille. Ok? D'accord. Alors, Advarim Aktuvim. Vous comprenez maintenant, il y a une difficulté. Toutes ces difficultés-là, nous devons faire face à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes à la fin des temps. Pourquoi nous disons que nous sommes à la fin des temps? Et tout simplement parce que le peuple revient. C'est ça la Géoula. Comment je peux définir la Géoula? Qu'est-ce que c'est la Géoula? J'ai besoin d'aller voir un livre de Halakha. On ne peut pas parler en l'air. Alors, qui écrit un livre de Halakha concernant la Géoula? Personne. Sauf un, le Rambam. Rambam, chapitre des rois, chapitre 11, nous dit quelle est la Géoula. Comment tu peux savoir si tu es dans une période de Géoula? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il nous cite un verset. Imien idachacha bikse hashamayim, si tu es au fin fond des cieux, je te ramènerai sur la terre. Donc Rambam, pour lui, la Géoula, c'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre. C'est clair, net. C'est quelque chose de saint. Ça veut dire qu'on est en train de revenir sur notre terre, donc nous sommes dans une période de rédemption. Advarim aktuvim kanma kablim mishne tokev. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant, dans le texte qu'a écrit le rabbi Menachem Mendel Mivitebsk à ses élèves, aux élèves du Baal Shem Tov, ça reçoit maintenant un éclairage encore plus fort. Veyesh bahem kede lehaïr ou levarer et akshaim va mashberim aouvrim alenu bedorot el. Et donc, nous allons maintenant nous affairer à comprendre quelles sont les difficultés d'aujourd'hui au peuple d'Israël qui revient sur sa terre. Zot Ashiv El Libi, Rav Kook, dans un livre qui s'appelle Peri Haaretz, le Rabbi Menachem Mendel, dans Peri Haaretz, Zot Ashiv El Libi, voici ce que je réponds à mon cœur. Je traduis textuellement. Les Ashiv Mipnei HaKavod. Et j'ai besoin de répondre parce que je vous respecte et je respecte le divin. L'école Shoel ou Mevakesh à tous ceux qui se poseront la question. L'Ishkon Kvod Ba'eretz Akdosha qui voudra venir hériter, habiter cette terre d'Israël. Le Rav nous prépare donc une réponse pour tous ceux qui un jour se poseront la question. Je veux monter en Israël. Moda Rabba Leyeda, et je vous dis clairement, Mes chers amis, dit le Rav, il faut que vous sachiez où l'Eodia et Haaretz Mahi. Il faut d'abord comprendre ce que représente la terre d'Israël. Da et Artzecha. Regardez ce que dit le Rav. Da et Artzecha. Il faut que tu connaisses ta terre. Vous savez bien que le langage de la Torah est précis. Lorsque nous parlons de connaissance dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Lien intime. Comme nous avons la connaissance de l'homme envers sa femme, et cette connaissance a engendré un enfant. Eh bien, lorsque le Rav nous dit « Il faut que tu connaisses ta terre », ça veut dire qu'il faut que j'ai un lien intime avec la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai un lien intime avec la terre d'Israël » Tout simplement, il faut que j'étudie qui est cette terre. Un projet. Projet d'étude. Nous sommes dans une terre, nous ne savons même pas qui elle est. Nous sommes là, nous sommes en train de marcher dessus, et nous ne la connaissons pas. Premier degré, dit le Rav, tu veux monter en Israël? Il faut que tu saches sur qui tu habites. Qui t'a accueilli? C'est la moindre des choses, non? C'est extraordinaire, nous avons l'impression qu'on a juste changé d'endroit. Bon, la terre d'Israël, c'est important, j'ai entendu, on m'a dit. Mais écoute, la terre d'Israël m'a donné un lopin de terre où j'ai construit ma maison, où j'habite, mon immeuble se trouve sur cette terre-là, mes enfants marchent sur cette terre-là, moi-même je marche sur cette terre-là, je travaille sur cette terre, j'étudie sur cette terre, est-ce que cette terre a une influence? Je veux la connaître. C'est un manque de respect que de vivre dans un endroit où, imaginez-vous, vous ouvrez une maison, vous rentrez, et vous trouvez un lit, vous dormez, vous trouvez une armoire, vous jetez tout ce qu'il y a, vous mettez vos affaires. J'ai besoin de savoir chez qui je suis. Qui m'a accueilli? Da et Artzecha. Donc le mot clé ici, c'est Da. Il faut que tu te connectes à la terre. Okay? Artzecha. En hébreu, Ertzecha. Qu'est-ce que ça veut dire Ertzecha? Je te voudrais. Ken Artzecha, c'est la même chose. Je te veux. Eretz, ça vient du mot ratson, vouloir, désir. Ani rotze, rotze, Eretz, c'est la même racine. Vous saviez ça ou pas? Le mot terre en hébreu veut dire celle qui veut, celle qui désire. C'est pas rien. Qu'est-ce qu'elle désire, cette terre? Qu'est-ce qu'elle veut? L'obemouvan shel geografia. Donc, ce n'est pas maintenant, nous ne parlons pas dans un sens géographique. Ve'agdarat prachim ve'charakim. On ne va pas commencer à définir des volatiles en toutes sortes, en tout genre, ni des fleurs, ni des plantes. Ela yediat ha'aretz mitzad mahuta. Nous voulons maintenant apprendre, étudier la terre pour ce qu'elle est, cette terre. Qui est-elle? Mahout, son essence. Vesgulata vekdushata. Je veux savoir quelle est sa segula. Vous vous rappelez quel est le terme du mot segula? Quelle est sa valeur intrinsèque que Dieu lui a donnée comme une carte magnétique lorsqu'il a créé? Chaque chose a reçu un élément qui est bien spécifique à ce que Dieu a créé. Et donc la terre d'Israël a reçu une certaine carte magnétique. Je veux savoir qu'est-ce que cette carte magnétique lui a donné comme caractéristique. Vektushata, sa sainteté. D'où lui vient cette sainteté? Pourquoi nous appelons cette terre Eretz HaKodesh? Traduction? Hein? La terre du saint, pas la terre sainte. Ken Eretz HaKodesh, la terre du saint, béni soit-il. Pas la terre sainte. La terre sainte, c'est une terre sur laquelle Dieu a aspergé quelques petites gouttes de sainteté de loin. C'est pas le cas. Ken? La terre du saint, Eretz Shel HaKodesh. La terre du saint, béni soit-il. Sa terre à lui. Umitorkach, une fois que nous allons comprendre ce degré-là, Havanat ha-kesher shelanu ima ve-gilgulim ha-shonim. Nous allons comprendre quel est notre lien avec cette terre et quelles sont toutes les péripéties qu'il y a par rapport à toutes les générations qui y passent. Ha-ovrim alenu ad she'anu nihiyim be'emet bnei hechalat de malka kadisha. Jusqu'à ce que nous devenions les enfants du sanctuaire du roi béni soit-il, de la sainteté du roi. Ça veut dire que nous devons arriver à un degré d'être les enfants du palais, les enfants du royaume céleste qui se trouve sur cette terre. Vous êtes dans un palais et vous devez comprendre que vous êtes des fils d'un roi qui revient à son palais. Et le comportement d'un fils d'un roi dans le palais du roi, c'est un comportement royal. Donc une grande terre a besoin d'un grand peuple. Et donc nous devons arriver à cette grandeur. Pour arriver à cette grandeur, nous devons étudier qui nous sommes. Ce n'est pas que nous ne sommes pas déjà grands, nous sommes déjà grands. Mais est-ce que nous vivons selon notre grandeur? Et nous sommes les fils d'un roi qui un jour s'est éparpillé, s'est éloigné du palais. Il a l'impression qu'il est devenu le fils de la servante. Mais à l'intérieur de lui, il a des comportements très royaux comme ça. Quand les gens le voient, lui disent « Mais toi, tu te comportes comme un prince, c'est bizarre. » On ne dirait pas que tu as grandi dans une maison paysanne. Et l'enfant qui a oublié se dit, c'est vrai que j'ai certains comportements, mais je ne comprends pas d'où ça vient. Eh bien maintenant, nous sommes en train de vous dire d'où ça vient. Vous êtes les enfants d'un roi, qui cet enfant est sorti en exil pendant 2000 ans, il a oublié. Il a tellement oublié que les nations du monde l'ont travaillé, lui ont transformé en fait toute son identité. Comment vous expliquez qu'il y ait des juifs séfarades et des juifs ashkénazes, avec des différences aussi fortes? Les uns sont presque des Allemands, les autres sont presque des Arabes. Qu'est-ce que c'est que ces inyanim là? D'où ça vient? Bien, tout simplement parce que les pays dans lesquels nous étions nous ont tellement travaillé que nous avons pris de la mentalité. Quand tu entends un païtan séfarade chanter, tu te demandes si tu n'es pas dans un endroit... Et lorsque tu entends un Ashkenaz chanter, tu te demandes si tu n'es pas dans une... Vous comprenez? Ça veut dire que les nations nous ont tellement influencés qu'on a perdu notre identité. Ça veut dire que il nous est resté quelque chose intérieur. Et ce retour-là doit retrouver cette chose intérieure qui est tellement, tellement recouverte de toutes ces influences. Car, effectivement, notre essence n'a jamais été perturbée, profonde. Mais elle a été recouverte de tellement de couches qu'il faut sortir, il faut essayer d'enlever toutes ces couches-là. Et pour enlever toutes ces couches, il y a un travail énorme. Mais la première des choses, c'est de savoir d'abord que nous sommes les fils du roi. Et que nous ne sommes ni des Arabes, ni des Allemands, ni rien du tout. Nous sommes des enfants d'Israël qui sont partis assez longtemps, qui se sont éloignés assez longtemps de leur palais et qui aujourd'hui, Baruch HaShem, sont en train de revenir au palais. Il faut tout simplement leur dire, vous êtes les fils d'un roi, comportez-vous en tant que tel. Ba'alei ha'aretz eretz Yisraelim. Donc jusqu'à ce que vous deveniez vous-même ou vos enfants des eretz Yisraelim, des fils de la terre d'Israël, avec un accent israélien, avec une force, ce que peut-être nous, en tant que parents, grands-parents, nous n'allons pas avoir, mais nos enfants et nos petits-enfants, oui. Okay? Et c'est pour ça aussi que vous êtes venus. Ça veut dire que vous pensez aussi à l'avenir, à vos petits-enfants, parce qu'ils vont retrouver, ils vont naître ici déjà. Okay? Alors que nos parents sont nés au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Allemagne, et que nous, nous sommes nés ou en France ou je ne sais où, et que nos enfants vont naître en Israël. Comprenez comment les choses sont en train de se nettoyer et l'influence de la terre va avoir une conséquence extraordinaire sur les enfants qui vont grandir, pousser, naître sur cette terre. Amrou Rabotenouzal. Maintenant, on rentre un tout petit peu dans le texte. Les sages nous ont enseigné. Où? Ben Midrash Shocher Tov. Dans un Midrash qui s'appelle Shocher Tov, celui qui demande le bien, qui court après le bien, qui est en quête de bien. Mais pasuk ratzita et arzecha. Ken? Ratzita Hashem arzecha. Le verset dit dans Tehilim 85, Dieu, tu as toujours voulu ta terre. Ken? Vous avez ici Tehilim? Vous avez un Tehilim ici? 85. Ouvre le Tehilim 85. Lis-moi, lis ce qu'il y a marqué là-bas. Je sais pas, bon, lecture. Mais lis en français. Tu es en français aussi? Alors dis-moi en français. Moi aussi, je suis en train de parler en français, malheureusement. Quel 85? Je me rappelle que du chapitre, je ne sais plus le verset. Verset 2. Attends, recommence. Tu as. On a fonctionné. Ok. Donc, ça, c'est donc une traduction. Elle est un petit peu light. Et ça fait un petit peu. De l'autre côté, bon, vous m'avez compris. On va pas rentrer dans les détails. Je vais lire en hébreu. J'aime pas les traductions. Tout de suite, ça nous pousse dans des contrées étrangères. Aïn pe. Pe. Hey, hey, voilà. Nas, Ratzita Hashem Arzecha, Shavta Shevit Yaakov. On dit Shevut, c'est écrit Shevit. Donc, Akadosh Baruch Hu, tu as voulu, mais c'est un passé continu. Ça veut dire, tu as toujours voulu. Ça continue dans le présent. Ça veut dire, tu as toujours voulu cette terre. Tu as toujours chéri cette terre. Shavta Shevut Yaakov. Et là, c'est quelque chose qui est nouveau. Tu as tellement voulu cette terre, tu l'aimes tout le temps, cette terre, et apparemment quelque chose qui n'est pas compris, Shavta Shevut Yaakov, et tu fais revenir les enfants de Yaakov. Vous comprenez le lien entre les deux? Moi je ne comprends pas, pour l'instant. Et bien, tout le texte va parler de ça. Quel est le lien entre tu as toujours aimé cette terre, donc on parle de Dieu qui aime toujours la terre d'Israël, et la preuve apparemment, c'est la suite du verset, Shavita Shvut Yaakov, c'est pour ça que tu ramènes les enfants d'Israël en aide. Comprenez? Donc ici, il y a un lien entre l'amour de Dieu avec la terre et l'amour de Dieu avec son peuple. Et donc le peuple avec la terre. Il y a quelque chose, un triangle ici, qu'il faut comprendre. Nasata Avon Amecha, je continue le reste. Tu as pardonné les fautes de ton peuple, qui sita kol chatatam sela, à tel point que tu as recouvert toutes leurs erreurs, toutes leurs fautes. Apparemment, le retour sur la terre, si David Ameler, Teilim, David Ameler, nous dit une suite logique, c'est que David Ameler a quelque chose dans la tête à nous faire passer. Dieu, tu aimes toujours la terre d'Israël, donc tu fais monter son peuple sur elle, et tu nettoies toutes leurs fautes. Moi, je comprends. D'après une suite logique, sans rentrer encore dans le texte, on va voir après ce que le Rav va nous dire, que quelle est la preuve que Dieu aime la terre d'Israël? C'est qu'il ramène son peuple dessus. Et quand le peuple d'Israël revient sur sa terre, qu'est-ce qui se passe? Dieu pardonne toutes ses fautes. Asavta kol evratecha, tu as rassemblé toute ta colère, hashivota mecharon apecha, tu reviens de cette colère. Je continue à développer mon système. Le fait que tu fasses revenir le peuple d'Israël sur sa terre et que ce peuple soit pardonné, c'est que Dieu, tu n'es plus en colère contre nous. Car quand tu étais en colère contre nous, nous étions à l'extérieur, comme des fauteurs. Regardez ce David Ameler, extraordinaire. Okay? Sioniste au premier degré. Et comprenez ce qui se passe maintenant. Regardez les agissements de la terre. Ce n'est pas une terre inerte, un endroit où tu viens et tu te poses et tu te dis, bon, allez, qu'est-ce qu'on fout ici maintenant? On va construire quelque chose. Non. La terre fait quelque chose. Elle agit sur l'homme. Première action, on vient de le voir ici. Effacer les fautes, recouvrir les fautes. Très bizarre. Shuvenu Eloishenu. Akadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai compris ça, David Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Shuvenu Eloishenu, ramène-nous. Akadosh Baruch Hu, toi qui nous délivres. Ve'afer ka'asra imanu, et arrête ta colère contre nous. David Ameler parle clair. Il est clair, David Ameler. Il dit, pardonne-moi, arrête d'être en colère contre moi. Prouve-moi que tu n'es plus en colère contre moi. Ramène-moi sur la terre. Vous rendez compte de ce que vous avez fait quand vous êtes venu ici? Vous avez enlevé la colère de Dieu de votre tête. C'est-à-dire, si Dieu vous a permis de venir habiter sur cette terre, c'est qu'il n'est plus en colère contre vous. C'est extraordinaire. Pour l'instant, je ne suis que dans la traduction. Allez, Olam te'enav banu. Est-ce que ça va durer longtemps? Ta colère contre nous? Timshoch apecha ledor vador. Toutes les générations, on va rester là-bas. Alors, ata tashuv techayenu. Nous voulons que tu nous ramènes vers la vie. Vers Mecha Ismechubach. Et on veut que ton peuple se réjouisse en toi, par toi. Areinu Hashem Chazdecha. Montre-nous à Kadosh Baruch Hu ta bonté. Veishacha titen lanu et donne-nous ta délivrance. Et Shmeama yedaber à elle. J'attends ta réponse. Kadosh Baruch Hu, fais-moi entendre ce que tu veux de moi maintenant. Moi, je t'ai dit ce que je voulais. Hashem ki yedaber shalom el amo vel chassidav ve'al yashuvu lekisla. Ach karov li'ira vish'o. Alors comment ça va se passer tout ça? Tu vas me dire, mais peut-être que tu vas devenir religieux à Paris, c'est tout. C'est là-bas où tu seras pardonné. Okay. David Amelech nous dit non. Karov li'ira, il n'y a pas marqué Paris. Ish'o lishkon kevot be'artzenu. Il faut qu'on revienne pour avoir un orgueil national sur notre terre. C'est pas marqué dans ta traduction. Chesed ve'emet nifgashu. Nous voulons que la bonté divine et que la vérité absolue se rejoignent, se collent. Tzedek ve'shalom nashaku. Que la justice et que la paix s'embrassent. Emet me'eretz titzmach. Et cette vérité divine va pousser de la terre. Ve'tzedek mishamayim nishkaf. Alors que la justice va venir du ciel. Ça veut dire que la terre va pousser une vérité. D'en haut du ciel va pousser une équité, une justice, et les deux vont s'embrasser. Gam Hashem iten atov ve'artzenu titen yevula. Et Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas que ce soit juste virtuel, s'il te plaît, sur Internet. Je veux que ce soit réel, je veux que tu me donnes la preuve de ce que je te demande, je veux avoir la réponse. Quelle est la réponse? Ve'artzenu titen yevula. Je veux que la terre donne de beaux fruits. Je veux aller à Shuk Machane Yehuda voir que tout est rempli de fruits magnifiques. David Amelech. Tzedek lefanav yehalech viyasem lederech pe'amav. Kadosh Baruch Hu, j'attends. Je marche avec toi. Marche-toi aussi avec moi. Extraordinaire. Extraordinaire. Maintenant, pour ceux qui ont étudié un petit peu la Kabbalah, David Amelech n'a pas mis ce psaume par hasard dans le chapitre 85. 85, c'est paix, la bouche. Or, la bouche et la terre d'Israël, c'est une seule et même chose, c'est le dévoilement. La bouche dévoile ce que j'ai dans ma pensée. La terre d'Israël est comme une bouche qui dévoile la parole divine. Comprenez qu'il y a ici tout un programme. Les autres HM, la prochaine fois, nous allons commencer à rentrer à l'intérieur.